Nous a perdu du monde, mais à cause de la pause café, mais on va être obligé quand même de continuer. Hein. On a deux présentations à faire. J'ai mes collègues du département de la conformité. Nous allons travailler ensemble sur les registres et les registraires de l'ICANN. Donc, je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Bon après-midi tout le monde. Merci d'être ici. Nous sommes heureux d'être ici avec vous. Je m'appelle Maggie Serran. Je suis à la tête de l'équipe de conformité contractuelle à ICANN. Stacy Burnett et Kariel Rachid sont avec moi ici aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons présenter avec vous une vue générale de la conformité contractuelle. Notre agenda, c'est de partager avec vous ce que c'est que cette conformité contractuelle, comment est-ce qu'on assure et on renforce le registre et les conformités de registre et de registraire, et pourquoi c'est important. Si ce serait OK avec l'audience, avec le public, j'aimerais qu'on me pose les questions à la fin de cette présentation. Nous avons du temps, donc après la présentation, pour des questions et des réponses. Donc, la conformité contractuelle des gens nous font référence en tant que conformité. Et comme vous voyez sur la présentation, nous soulignons le mot contractuel parce que nous utilisons le contrat en tant qu'un outil de conformité. Nous avons des parties avec lesquelles nous travaillons. Nous devons adhérer à un ensemble de règles et des normes de performance sur lesquelles on s'est mis d'accord vis-à-vis d'un contrat, dans un contrat. Pourquoi est-ce qu'on a ça à l'ICANN? La première chose que je voudrais souligner, c'est que des fois, les gens pensent de nous comme si on était des régulateurs. Nous ne sommes pas une agence de régulation. Nous ne sommes pas la police. Nous sommes là pour opérer avec les autorités qui nous sont données à travers le contrat. Et c'est limité, donc, au contrat. Le contrat, aujourd'hui, est avec les registraires. Beaucoup d'entre vous sont nouveaux venus dans le monde ICANN. Vous allez entendre plein de nouveaux mots, d'acronymes. Registraires, c'est une de nos parties sous contrat. Et les registraires sont les compagnies qui ont enregistré le nom de domaine. Nous avons aussi des parties qui sont sous contrat, sont les opérateurs de registre. Ils sont en charge responsable de garder un dossier principal, donc maître, donc avec les noms de domaines qui se terminent par un suffixe précis. Nous aimerions souligner une vue d'ensemble des relations sur cet organigramme. ICANN a des contrats avec deux différentes parties. Je vais donc parler de celle qui est en haut, le registre, et le contrat, l'accord est avec, ça s'appelle donc un accord de registre. Nous avons aussi un contrat avec le registraire. Ce contrat s'appelle le RRA. Vous allez devenir plus familier avec le monde ICANN. Vous verrez, vous savez que nous parlerons de ça en tant que le RRAA, en fait. Sur cet organigramme, vous verrez qu'il y a des contrastes entre les parties. Le registraire a un business et il est là pour vendre un nom de domaine. Il est sous contrat aussi avec le registrant. Et aussi, il sera peut-être sous contrat avec un revendeur. Et il y a aussi un contrat entre le registre et le registrant. Notre domaine est avec le registre et le registraire. Ce sont les parties avec lesquelles nous travaillons au niveau de la conformité. Aujourd'hui, nous avons à peu près 995 registraires qui ont un accord RAA avec ICANN. Cet accord est très standard et utilisé, et beaucoup utilisé. Nous avons des accords, 18 accords de registre. Nous avons des accords spécifiques par registre. Nous avons aussi un nouveau modèle qui a été approuvé pour les nouveaux GTLD et cet accord est en ce moment finalisé. Il n'est pas fini, il n'est pas terminé. Comment est-ce que nous assurons et nous assurons que la conformité soit bien suivie? Avant de parler de ça, nous aimerions parler d'où nous sommes sur ce modèle de multi-partie prenante. Nous sommes partie du personnel ICANN, du staff ICANN, et nous opérons à partir de ça. Mais cependant, nous collaborons et travaillons dans tous les domaines de ce modèle. La collaboration est vraiment importante pour le succès pour notre succès. Ceci parle de notre mission, de notre approche, pas seulement en relation avec la vision ICANN, la mission ICANN, mais je voudrais l'expliquer un peu plus pour l'audience. Notre mission de conformité contractuelle et notre vision est d'être un service à qui on fait confiance, un fournisseur de services à qui on fait confiance. Notre approche va être placé sur la prévention avec une collaboration, une transparence de la communication, mais aussi il y aura des moments où nous aurons à renforcer le contrat, le suivre le contrat si la prévention n'est pas suivie. Cette page parle du régime de conformité contractuelle. Nous sommes dans le processus de développer des déclarations qui vont se faire indépendamment. Nous n'avons pas adopté encore ce processus, mais nous sommes en train de développer cela. Ce modèle, à partir de la base, veut dire que nous sommes tous responsables d'être conformes. Nous voulons être conformes. Les activités auxquelles nous faisons référence et auxquelles nous sommes responsables, c'est de prévenir des activités. Il faut qu'on contrôle. Nous avons des outils qui nous permettent de contrôler. Nous faisons aussi des audits. Nous faisons aussi des activités pour atteindre les différentes communautés avec de la communication, de la collaboration, pour pouvoir adresser et clarifier toutes ces conformités. Ce régime de conformité, il y a aussi les résolutions informelles. Cet aspect est à la base c'est quand on a des problèmes de non-conformité. Nous collaborons ainsi avec les parties qui ne sont pas conformes pour arriver à une résolution. Si cela ne marche pas, ça ne fonctionne pas, cette résolution ne passe pas, nous devons faire respecter la conformité. Donc, toutes ces étapes sont critiques dans notre processus. Et la prochaine diapositive nous le montrera. En 2012, nous allons focaliser sur les nouveaux programmes des GTLD qui ont été approuvés, qui ont été lancés. Et dans notre effort pour nous préparer, nous sommes dans le processus à regarder tous les processus qui guident nos activités tous les journalières. Nous voulons nous assurer que ces processus soient clairs, que nous pouvons faire toutes les améliorations nécessaires. Nous voulons aussi normaliser nos procédures. C'est très important pour que nous puissions être plus efficaces et efficaces dans ces domaines. Nous étions en explorer le système, toutes les métriques pour pouvoir faire des rapports. Nous aussi faisons des recherches dans différents domaines pour mieux collaborer et mieux communiquer. Ce cycle de vie devant nous, ce cycle que vous voyez, explique la prévention, les aspects de prévention et de respect pour pouvoir faire respecter les conformités. Quand nous avons un litige, nous voyons à travers notre système de contrôle qu'il y a un problème de non-conformité. Donc, nous faisons des recherches vis-à-vis des parties concernées. On leur demande ce qui se passe. Donnez-nous des informations. Et puis, si on n'entend pas parler de vous, si on n'a pas de suivi, on demande une deuxième fois des informations et une troisième fois. Donc, il y a quand même un délai qui se passe, un délai où on donne du temps pour recevoir une réponse. Après la deuxième demande, en général, on a tout de suite la collaboration et on s'occupe du problème et on résout le problème. Mais si après la troisième étape, troisième demande, on n'a toujours pas reçu d'information, on n'a pas eu de réponse à notre demande, nous passons à la procédure où nous devons faire respecter la conformité. Ça devient plus sérieux et il y a donc, on envoie une annonce qui donne exactement, on demande vraiment là une réponse formelle. Quand tout ça ne fonctionne pas, il y a là une raison pour faire pour terminer. Et souvent, il y a des signes de collaboration. Et encore une fois, nous voulons être sûrs que nous pouvons collaborer et nous voulons utiliser toutes nos étapes. Sur l'équipe de ICANN maintenant, nous avons 8 employés plein temps et nous avons 3 positions qui sont ouvertes dans les rôles d'audit et d'analyste. L'équipe combinée, nous avons à peu près tous 100 ans d'expérience combinée entre nous. Nous avons vraiment de la chance d'avoir une équipe incroyable d'experts, des avocats aussi, et aussi des experts en conformité qui nous guident à travers ce processus combiné avec cette équipe. Nous pouvons parler aussi 5 langues. Imaginez ça, vous parlons et anglais, bien sûr, français, arabe, mandarin et espagnol. Nous avons donc une équipe incroyable qui utilise ces 5 langues pour collaborer avec la communauté pour nous amener à des résolutions. Avec ce diapo, je voudrais transférer à Stacy qui vous parlera de plus de détails au niveau opérationnel et les domaines différents de conformité. Bon après-midi et encore une fois, merci. Merci pour votre présence à cette séance. Avant de rentrer dans plus de détails sur notre programme, je voudrais sonder l'audience et savoir si vous pouvez lever la main si vous avez enregistré un nom de domaine auparavant. Levez la main. Et avant de faire cet enregistrement, combien d'entre vous avaient déjà entendu parler de ICANN? Nous avons un de nos anciens directeurs dans l'audience. On sait qu'il a déjà entendu parler de l'ICANN. Mais on sait, c'est bien de savoir qu'on a une audience qui peut vraiment, qui connaît ce système. Certains d'entre vous ont même entendu parler de l'ICANN. Donc, c'est vraiment une chose fantastique. Maintenant, je voudrais donc vous parler un peu des domaines sur lesquels on focalise dans notre programme. Et Maggie a partagé avec vous que nous avons des relations avec les registraires et les registres. Et donc, notre objectif, c'est de garder des relations amicables, que ces relations soient intactes et de nous assurer que nos partenaires de business soient conformes avec leurs contrats. Nous avons donc un groupe dans notre programme qui focalise sur la prévention, ce qui veut dire ne pas avoir à prendre des actions vis-à-vis de nos partenaires de business plus tard. Et dans nos activités de prévention, nous avons la gestion des litiges business, où nous conduisons des audits, nous contrôlons les litiges, les problèmes alors qu'ils nous arrivent. Et si nous avons du succès dans la prévention, nous n'avons pas trop de problèmes par la suite, nous n'avons pas de problèmes à suivre. Donc, nous mettons beaucoup, beaucoup de ressources dans nos activités de prévention puisque c'est notre objectif de maintenir une bonne relation positive où les résultats, nos partenaires seront conformes aux résultats. Alors, bien souvent, des fois, on ne réussit pas dans notre prévention. Donc là, il faut qu'on fasse plus d'efforts. On fait des enquêtes sur les litiges de non-conformité. On parle avec les différentes parties. Et des fois, il faut qu'on leur envoie des annonces en disant qu'ils ne sont pas conformes. Et il y a des fois, il faut qu'on termine la relation avec ses partenaires parce qu'ils ont refusé d'être conformes dans les délais que nous leur demandons à travers le contrat. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Je voulais poser Je voudrais lui dire quelque chose avant que Maggie s'en aille. Nous avions 5 langues. Maggie, elle en parle 3. Donc, sans elle, je ne sais pas comment on pourrait communiquer avec le reste du monde. C'est une bonne chose que nous l'ayons. Notre programme courant. Nous sommes intéressés à améliorer nos efforts de communication. Nous avons refait notre site web. Nous sommes intéressés dans la publication de métriques de performance réguliers. Nous voulons aussi améliorer notre système de rapport pour que l'information qu'on puisse rapporter soit utile pour la communauté et reflète justement toutes les activités dans lesquelles nous sommes engagés. Nous avons aussi des relations avec les systèmes légaux, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Internet. Ça pourrait être nos partenaires business ou des gens qui ont des relations avec nos partenaires business, des gens qui font des choses sur Internet qui ne sont pas forcément légales. Donc, nous devons faire référence de ces gens-là à la police ou pour que ces gens-là s'occupent donc des systèmes légaux, pour que ces gens-là assurent que tous ces problèmes sont pris en compte. Cette diapo vous donne une idée des litiges, des plaintes que nous avons reçues entre juin et septembre 2011. La plupart de ces plaintes, 60% d'entre elles, n'ont rien à voir avec des matières ou des sujets sur lesquels nous pouvons agir. Donc, si quelqu'un se plaint d'un registraire qui charge trop d'argent, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons agir. Donc, nous devons les référer à une autre agence. Ils doivent être obligés de faire des négociations avec l'enregistreur parce que ce n'est pas la matière qui est dans notre contrat. Donc, nous avons, par contre, l'autorité, c'est les transferts de domaines. Pour ceux d'entre vous qui ont des noms de domaines qui sont enregistrés, il pourrait vous arriver que vous êtes en conversation avec un ami, il peut vous dire « Ah, moi, j'ai enregistré mon nom de domaine pour 5 $ pour les 6 années qui viennent. » Vous allez lui dire « Mais moi, j'ai payé 100 $ pour une année. » Et vous allez peut-être pouvoir déterminer « Je vais aller voir un autre registraire parce que j'aime pas mon registraire, il me charge trop d'argent. » Donc, vous voulez peut-être transférer à un autre registraire qui est accrédité avec l'ICANN. ICANN a créé un processus pour que vous puissiez transférer votre nom de domaine à un autre registraire, si vous le voulez. Malheureusement, nous avons beaucoup de plaintes qui viennent de personnes qui disent que les registraires ne sont pas conformes à toutes les choses que nous avons établies. Donc, ces registraires demandent à ce que des actions soient prises vis-à-vis de des politiques qui sont dans leur contrat de transfert. C'est là où nous avons beaucoup de plaintes. Un autre domaine où nous focalisons nos efforts, c'est dans notre programme, c'est l'escroc des programmes de registraires. C'est équivalent à pour que nous assurons que toutes les informations que vous tapez sur votre ordinateur, si vous saviez que ce serait sauvegardé quelque part, s'il y a une urgence, par exemple, vous vous sentirez plus en confiance de savoir que mes informations sont sauvegardées quelque part, je peux accéder à ça et la vie est toujours bonne. Hein. Mais si vous tapez donc des informations très importantes dans votre ordinateur, qu'il y ait des documents qui sont très importants sur votre ordi et que vous avez un problème avec votre ordinateur, que votre information n'est pas sauvegardée, vous allez vous sentir très concerné. Vous allez avoir à prendre des tas de mesures pour recapturer ces informations. La même chose est vraie pour un nom de domaine et pour les informations d'enregistrement. Pour une raison ou une autre, le registraire accrédité de ICANN ont un contrat avec vous et que ce business n'est plus. ICANN peut mettre en place un système. Je suis désolée, j'ai vraiment parlé trop fort. ICANN a mis en place un système pour assurer que les informations d'enregistrement pour tous les domaines enregistrés est mis en sauvegarde dans une entité qui n'est pas associée avec ICANN. Au cas où il y aurait un problème, cette information peut être transférée à un autre registre accrédité d'ICANN. Donc, vous n'avez pas besoin de nécessairement ne plus avoir l'accès à votre nom de domaine ou l'utilisation de votre nom de domaine si vous avez un souci. Donc, c'est vraiment un aspect important de notre programme. Et quand on voit que les gens ne sauvegardent pas leurs informations, nous prenons les choses très au sérieux. Qui a accès et qui est juste... quand vous enregistrez un nom de domaine, il faut fournir des informations sur l'entité ou la personne qui enregistre le nom de domaine et mettre donc un contact, des informations de base de qui est derrière le nom de domaine. Il y a des services de privauté. Il y a peut-être des informations que vous ne voulez pas fournir. C'est aussi possible. Mais chaque nom de domaine doit avoir un certain nombre d'informations d'enregistrement qui soient associées avec ça. Et cette information doit être publiquement disponible. Notre contrat le demande avec nos registraires accrédités de ICANN. Donc, il y a deux provisions dans notre accord qui est l'accès. Quelle est l'information qui est disponible au public et doit être juste, doit être exacte. Les demandes où les registres doivent enquêter tous les litiges pour voir toutes les informations qui ne sont pas justes, qui ne sont pas... Nous contrôlons qui a l'accès. Nous avons des outils qui nous permettent de faire cela. Nous conduisons aussi des audits. Et au niveau de la justesse, au niveau de la précision, nous avons un système de rapport où le public peut aller et enregistrer une plainte pour dire qu'il y a des faits qui ne sont pas exacts. Et nous commençons là une enquête. Le RAA a des demandes d'enquête sur lesquelles le registraire doit être conforme.
Et donc, un autre aspect important de ce programme, c'est de faire respecter les noms de domaine avec une ligne de conduite. C'est un petit peu long, on a des termes un petit peu longs. C'est une ligne de conduite qui permet des résolutions de conflits lorsqu'il y a des litiges à ce niveau pour les noms de domaine. Et nous avons ce qu'on appelle le cybersquatting en anglais, si l'on occupe donc un site web. Par exemple, si je suis Coca-Cola... Vous connaissez tous Coca-Cola qui s'est implanté partout dans le monde. Et si quelqu'un a enregistré un nom de domaine avec presque Coca-Cola, quelque chose qui ressemble à Coca-Cola, qui essaye d'occuper et de prêter à confusion et d'attirer des visites sur son site web qui ressemble un petit peu à Coca-Cola, mais qui n'est pas exactement le même. Là, il va y avoir un litige sérieux. Puisqu'il va y avoir donc un problème de marque de fabrique, de respect des droits, et tous nos registraires sont d'accord pour respecter donc ces lignes de conduite. Donc, nous suivons de près les litiges, et Rachid, qui est à côté de moi, est la personne qui est responsable donc de faire respecter ces noms de domaine. Lorsqu'il y a des plaintes qui nous arrivent, on fait respecter également ces règlements et on ne permet donc pas que plusieurs noms de domaine se chevauchent, par exemple, ou qu'on essaie d'utiliser des noms bien connus. Donc, on vous a montré un diagramme avec une espèce de camembert. On a vu toutes les plaintes qui nous arrivaient. Et nous avons vu donc les lignes de conduite de transfert lorsque les registraires ne permettent pas aux registrants de transférer leur nom de domaine d'un registraire à un autre. Et nous agissons le cas échéant dans ces domaines. Donc, Maggie nous a dit... Ah, j'ai oublié quelque chose, excusez-moi. Oui, Maggie nous a expliqué ce qu'est la conformité contractuelle. Donc, je crois qu'on a couvert cela. C'est ce que nous voulions faire. Maintenant, Pourquoi est-ce que c'est si important ce dont on vous parle aujourd'hui? C'est si important parce qu'il faut beaucoup de partenaires commerciaux qui travaillent ensemble de manière collaborative et qui suivent et respectent à la lettre les règles pour faire en sorte que le système de nom de domaine fonctionne à bon escient. Si vous êtes un registraire ou s'il y a des registres qui commencent à violer les règles, eh bien tout le système commence à s'écrouler et ça pose des problèmes très nombreux. Et l'utilisation de votre nom de domaine ne sera plus satisfaisant à ce moment-là. C'est pour cela que l'on reçoit des plaintes dans les transferts, par exemple, si le registraire ne fait pas bien son travail. Donc, nous devons absolument nous assurer que le DNS, le système de l'annuaire de l'Internet, fonctionne bien. Il faut que ça soit un outil pour tout le monde dans le monde entier. Donc, il y a des modifications, il y a des défis à relever, des obstacles. Et c'est pour cela qu'on a besoin de vous en tant que membre de la communauté ICANN. On veut que vous soyez très actifs dans cette communauté. L'Internet n'appartient pas à l'ICANN, l'Internet n'appartient pas à un pays. L'Internet est un outil que nous utilisons tous en tant qu'humanité. Et dans ce processus multipartite, eh bien, nous devons pouvoir définir l'avenir de l'Internet. Dans 15 ans, à quoi ressemblera l'Internet et ses noms de domaine et ce système? Vous allez en entendre parler de ces nouveaux GTLD où l'on va pouvoir sélectionner les suffixes d'un nom de domaine. Donc, par exemple, vous déposez le nom de domaine .football ou bien .musique. Et si vous présentez une application que vous pouvez gérer, vous pouvez proposer un nouveau nom de domaine. ICANN va pouvoir vous permettre de gérer .football, par exemple. Et pour cela, évidemment, il va devoir payer et être au niveau. Donc, des grands changements depuis le mois de juin, beaucoup d'obstacles aussi, de défis à relever, de difficultés. C'est pour cela que nous avons besoin de vous en tant que participants dans ce processus. Vous êtes ici, dans cette réunion, vous allez continuer à participer, à bâtir l'Internet de demain, à aller sur notre site web, à voir toutes les ressources qui sont disponibles. Je crois que notre site web est absolument énorme et a de nombreuses pages et beaucoup de documentation. On peut y trouver beaucoup, beaucoup de documentation sur notre programme de conformité. On peut trouver beaucoup d'éléments plus précis sur les différents contrats, les registraires, les registrants, tout est disponible. Le processus de litige et de résolution des litiges et des conflits est également disponible sur notre site web. Beaucoup d'informations, donc continuez à participer. Je vais redonner la parole à Maggie maintenant. Merci Stacy. J'aimerais également prendre cette occasion et la saisir. Je sais qu'on est nombreux dans cette salle, on n'a pas beaucoup de temps, mais nous sommes ici pour parler de conformité. Nous avons une adresse email que nous gérons qui s'appelle compliance, qui veut dire conformité en anglais, @icann.org. N'hésitez surtout pas à nous envoyer des emails et on vous enverra un suivi. Nous communiquerons avec la communauté, donc n'oubliez pas cette adresse compliance@icann.org. Merci beaucoup. Nous aurons également des séances mercredi dans la salle B8. Si vous voulez en savoir plus sur certains thèmes, vous aurez la possibilité de vous rendre à ces séances. Nous aurons des séances ouvertes avec des questions-réponses. N'hésitez pas à venir. Nous serons disponibles pour répondre à vos questions et nous vous remercions de votre attention. Merci de cette opportunité qui nous a été donnée de nous exprimer. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser au sujet de cette présentation. Nous pouvons donc poser des questions à nos intervenants. Eh bien, merci de votre présentation. J'aimerais répéter ma question que j'avais posée plus tôt dans l'après-midi. Qu'est-ce qui va se passer si mon registraire disparaît? Qu'est-ce qui va se passer pour mon client? Donc, je suis revendeur de nom de domaine et mon registraire disparaît. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Quelles vont être les répercussions, les problèmes? Oui, merci de votre question. Je vais être sûr de bien la comprendre. Donc, je vais la répéter. Tout le monde m'entend? Vous m'entendez? Oui, d'accord. Donc, je crois que la question était, qu'est-ce qui va se passer pour mes clients si votre registraire disparaissait? Donc, on peut répondre de diverses manières. À ce point, ICANN, au niveau de la conformité et des contrats, on travaille avec les personnes qui ont passé des contrats avec nous, donc les registres et les registraires. Donc, si vous gérez avec quelqu'un d'accrédité, ce registraire a les mêmes obligations envers l'ICANN. Lorsqu'un registraire fait faillite, quel que soit le rapport que nous avions avec lui, eh bien, il y a un processus qui permet de transférer les données. Vous avez peut-être vu la présentation où on parlait de cela. Stacy ou Maggie nous a parlé du programme donc de sauvegarde des données. Donc, pour tous les noms de domaine, on est en mesure de sauvegarder ces données. Si un registraire fait faillite, il y a un processus de transition en bonne et due forme et les données passent à un autre registraire. Donc, à la base, si quelqu'un fait faillite, un registraire fait faillite et vous étiez un client de ce registraire, les données de ce registraire sont transférées à un autre registraire. Est-ce que cela répond à votre question, monsieur? Monsieur n'a pas de micro, on ne l'entend pas. Je ne peux pas vous entendre. D'autres questions? Je crois qu'il avait une remarque à faire. Oui, merci de votre réponse qui me satisfait. Mais je voudrais simplement savoir, monsieur, si je pouvais choisir un autre registraire. Non, pas au départ, non. La réponse est non. Lorsqu'un registraire fait faillite, donc ce processus ne vous permet pas de choisir un autre registraire. Tous les noms de domaine générés par ce registraire passent à un autre registraire. Donc, c'est à la fin de ce processus que on peut passer à un autre. Ça va prendre combien de temps, ça? Ça dépend de chaque question spécifique. Si vous allez sur le site web de ICANN.org, allez sur notre page, nous avons des questions fréquemment posées, et je crois qu'il s'agit d'une question communément posée, donc veuillez s'il vous plaît donner le micro à la personne qui est derrière vous. Oui, je m'appelle Célia, je suis boursière d'Argentine, en Amérique latine, vous m'entendez? Oui, bon, bienvenue. J'ai vu que vous aviez donc les différentes plaintes et les différents thèmes. Est-ce que vous avez donc des analyses faites au niveau géographique sur d'où proviennent ces plaintes? Parce que on se pose la question. Combien de personnes ont déposé des plaintes provenant peut-être de chaque région ou continent? Oui, merci de la question. Je crois que tout le monde a bien compris qu'elle voudrait savoir géographiquement d'où viennent le plus de plaintes. Deux points. Mercredi, nous allons avoir une séance où nous allons justement parler de cela. Venez nous écouter. J'aurai une réponse plus précise d'ici mercredi. En général, on a quelques statistiques. Je crois que ma collègue a des transparents PowerPoint qui pourront vous montrer un petit peu cela. Donc, pour l'UDRP, eh bien, je crois que ça vient de plusieurs régions de l'Asie et l'Amérique latine. Donc, je ne vois pas qu'il y ait une région qui se démarque par rapport aux autres. Donc, on se voit mercredi, d'accord ? Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des questions peut-être qui sont posées sur l'Internet? Questions à distance? Mais par contre, dans la salle, on a une question.
Je suis Victor Donan, je suis du Cameroun. Je fais partie du programme Fellowship. Donc ma question est simple, pour éviter les problèmes de litige en matière de non-domaine générique, qu'est-ce qu'un registrant doit faire lorsqu'il veut enregistrer un non-domaine? Moi aussi, je suis en quelque sorte revendeur et j'ai des clients qui m'envoient des emails qui veulent dire non, ils me donnent les noms, c'est libre. Si j'enregistre et que ça, dans un coin du monde, ce nom est une marque ou bien le nom d'une société là-bas, est-ce que je suis juridiquement responsable en quelque sorte? Merci.
On va répondre en anglais parce que comme ça, tout le monde, ça ne vous dérange pas. The question is him as a registrar.
Donc la question est la suivante, qu'est-ce que on peut faire pour être conforme?
Savoir comment être légitime pour ne pas avoir des problèmes avec le registrar et tout ça. Oui? Merci.
Pour ne pas avoir à répondre à des plaintes des propriétaires de marques par exemple. Si j'ai quelqu'un qui veut un nom,
d'accord.
Et je ne suis pas sûr que ce nom n'est pas une marque dans okay. So un coin du monde et que je l'enregistre, est-ce que je suis responsable juridiquement?
D'accord. Merci. So, as a registrant, he wants to know how he can avoid IPC issues, basically.
Donc, comment vous pouvez éviter d'avoir des problèmes de droits de marque déposés, de problèmes de marque déposés? Eh bien, je crois qu'en ce qui concerne l'IDRP, vous pouvez aller donc une nouvelle fois sur le site ICANN.org. C'est comme cela que nous gérons. On ne parle pas de responsabilité légale. Ce que l'on dit, c'est que si quelqu'un qui enregistre un nom de domaine enfreint une marque déposée, eh bien, ils peuvent potentiellement perdre ce nom de domaine. C'est simplement la responsabilité légale qui est engagée. Il y a trois également, je ne vais pas rentrer dans les détails légaux, parce que tout est sur le site web, mais le résultat, c'est que, au pire, vous perdez votre nom de domaine si vous enfreignez une marque déposée. Ça, c'est pour le droit de Floride, de l'État de Floride, principalement. Donc, est-ce que ça répond à votre question? Donc, n'hésitez pas à venir mercredi également, si vous avez des questions plus précises, on pourrait répondre, monsieur. Donc, une question supplémentaire, et après ces deux questions, je vais vous demander de venir à ces séances pour poser des questions, puisqu'il y aura des questions-réponses. Mercredi, vous avez cela sur l'écran, vous avez les horaires et tout ce qu'il faut. Je m'appelle Patricia Sangor du Sénégal et j'ai des questions sur l'interaction. Donc, WIPO, c'est donc quelque chose qui permet de résoudre les litiges. Donc, lorsque nos lignes de conduite ICANN ne fonctionnent pas, nous avons établi une ligne de conduite qui nous permet, dans notre contrat avec les registraires, que l'UDRP soit bien respecté. Donc, lorsque l'on vend un nom de domaine, la personne qui achète ce nom de domaine est d'accord pour accepter ce UDRP. Et il y a donc un processus d'arbitrage qui existe. Si quelqu'un accuse de violation de marque déposée, eh bien, il y a une espèce de jury de quatre personnes qui arbitre ces procédures. Et si quelqu'un dit « vous violez ma marque déposée », eh bien, il y a donc le système WIPO international de résolution des litiges légaux. Et ICANN travaille avec cela. Oui, merci beaucoup.
Je suis Ali Hadji de Comores. En fait, ma question est la suivante, c'est que j'ai comortelecom.km. Et un jour, j'ai été contacté par un registrat, comme quoi il a eu des demandes de noms de domaine, comortelecom.sn, comortelecom.etc. Et si j'avais constaté que mon nom de domaine était enregistré sur, par exemple, .sn, est-ce que je pouvais vous contacter pour une procédure quelconque ou bien chez qui ils doivent justement me référer? Merci.
Si vous me permettez de répéter la question. Oui. Alors, vous avez un domain name registré sous un autre extension.
Oh, .km.
Voilà. Ouais. Et vous trouvez que ça existe sur un autre? Et que, si vous pouvez nous contacter, pour quoi faire? Pour changer ou quoi?
Voilà, pour changer. En fait, pour que les seconds noms de domaine disparaissent.
OK.
Voilà.
OK. Ah, OK. Did you hear the answer question? OK. He has a domain name registered.
Donc, il y a un nom de domaine inscrit et le même nom de domaine, mais avec un autre domaine de premier niveau est déjà inscrit. Donc, est-ce qu'il peut nous contacter pour s'assurer qu'il y a un seul nom de domaine pour lui? Il y a deux différentes extensions. Donc, à qui doit-il s'adresser à ce niveau? Donc, j'espère que vous m'entendez. D'accord. Donc, si j'ai bien compris la question, cela a à voir avec la même inscription de nom de domaine de deuxième niveau. Par exemple, yahoo.com, yahoo.net, pour prendre un exemple simple. C'est la question? D'accord. Donc, si vous avez la marque déposée et qu'il y a une violation de votre marque déposée, je ne crois pas qu'il n'y a pas de remède en passant par l'ICANN. Vous pouvez passer par une autre, peut-être, cour de justice, parce que le système de nom de domaine est conçu qu'il y a une concurrence, innovation, qu'il n'y a pas de monopole, de situation de monopole dans un nom de domaine de premier niveau. Donc, on n'encourage pas l'exclusivité à ce niveau-là. Et mercredi, on peut parler plus avant de cela.
Merci tout le monde. Merci à l'équipe de Conformity. On a vraiment apprécié votre présentation. Merci. Maintenant, nous allons voir cette dernière présentation. Il ne vous reste plus qu'une présentation avant la célébration ce soir. Nous aurons une présentation de Carla et de Chan Michael pour les bases des nouveaux GTLD. Ça va nous prendre une petite minute pour qu'on puisse télécharger la présentation sur l'écran et nous commencerons immédiatement après ça.